Donc Claire Morel et Dominique Pocard sont du cabinet Syndex. Et il y a très 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 longtemps, quand je travaillais à la DARES, je me souviens, Dominique Pocard nous avait fait un rapport sur les restructurations en Europe, je crois. Hein. C'est ça, Dominique ?
Oui, c'est possible.
D'accord, super.
Oui, on présente tous les deux.
Donc bonjour à toutes et à tous. Donc il y a beaucoup de Syndex actuels, anciens, nous, voilà, peut-être des futurs. N'hésitez pas. Donc moi aussi, je suis actuellement intervenante au cabinet Syndex, plus particulièrement sur le secteur tertiaire, hors services financiers et santé, activités santé, cliniques, hôpitaux. Donc tout ce qui est, ça va donc de cabinet de consultants à éditeurs de logiciels, à SS2I, presse, agences de voyage, commerce. Voilà, c'est à peu près tous les secteurs qui sont couverts dans cette activité. Donc moi, je me focaliserai plus sur des retours d'expérience dans le secteur tertiaire et donc pas industriel. Voilà, c'est un peu le pas de côté par rapport à ce qui a pu être dit auparavant et quand même beaucoup sur aussi le bassin d'emploi Île-de-France aussi, puisque je suis intervenante à Paris. Donc c'est aussi une problématique à prendre en compte parce que c'est pas tout à fait le même bassin d'emploi que dans d'autres régions françaises. Donc Dominique Pocard, toujours
pareil,
aussi à Syndex.
Voilà, on travaille tous les deux à Syndex depuis longtemps et notamment sur les restructurations un peu tous azimuts. On peut peut-être entrer directement.
Beaucoup plus fort parce que sinon on a le micro.
Ah oui.
Plus dans le micro.
Non, mais le micro.
C'est le micro, il ne fait qu'enregistrer,
ouais,
je crois.
Donc,
alors j'ai une voix qui ne porte pas tellement, je suis désolé, hein, mais je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc pour commencer, quelques dates. Juste pour rappeler, comme le disait tout à l'heure Frédéric, que c'est une vieille histoire, si vous voulez, les restructurations. Je ne remonterai pas aussi loin que lui, hein, mais en termes réglementaires, en termes de codification, c'est quelque chose qui remonte à la fin des années 60, au début des années 70. C'est le premier événement où on parle de restructuration, c'est un accord national interprofessionnel signé par l'ensemble des organisations syndicales et qui traite de la sécurité de l'emploi. Et dès cette époque-là, le diagnostic est globalement posé et les grandes lignes de ce qu'il faudrait entreprendre, de ce qu'il faudrait faire, sont dans le texte. Hein, une politique active de l'emploi, une co-responsabilité des partenaires sociaux, des actions de reconversion, la problématique territoriale est évoquée aussi, avec notamment la création des COPIR, comités interprofessionnels régionaux, qui en principe devaient traiter initialement d'emploi et de formation professionnelle pour notamment permettre de faire face à ces mutations locales. Bon, la difficulté, c'est qu'il a fallu plus de 40 ans pour que, plus ou moins bien, ce programme du début des années 70 se mette effectivement en place. Alors au fil du temps, sur 40 ans, on a effectivement, par petits bouts, des choses qui relèvent de ces grands axes, qui sont rentrées dans la loi. Avec des allers-retours de temps en temps, on a quelques grandes étapes. La première étape, c'est l'autorisation administrative de licenciement. Donc, c'est quelque chose qui vise à éviter les licenciements non nécessaires. On en parlait tout à l'heure, c'est justement ça que ça servait. L'administration était là pour vérifier que le motif économique était bien justifié. De mémoire, il y avait quelque chose comme 10% de refus d'autorisation. Peut-être que tu veux... ça, c'est une première étape. Il y a une deuxième étape ensuite. Alors, elle va avec des FNE, donc des pré-retraites massifs. Hein. Il y a une deuxième étape qui va de la deuxième moitié des années 80 jusqu'à pratiquement aujourd'hui, hein, et qui s'intéresse à la gestion des flux, donc le retour à l'emploi. Hein. Plus que gérer du stock, essayer de descendre, de diminuer l'offre de travail, essayer de faire en sorte que le retour à l'emploi soit plus facile, plus rapide. Et c'est notamment l'instauration à la fois d'un droit au reclassement à travers la création du plan social et d'une prévention en matière d'emploi, c'est la loi Soisson qui nous dit que les employeurs doivent mettre en place, alors de façon concertée avec les représentants du personnel, il y a une consultation annuelle qui est prévue, ou de façon unilatérale à défaut, sur les prévisions en matière d'emploi et la gestion des difficultés susceptibles d'apparaître à l'occasion de ces prévisions. Donc c'est le début de la GPEC dans la loi en fait. Hein. Cette GPEC, elle a été rappelée ensuite avec la négociation triennale à partir de 2002-2005. Donc voilà, on a des choses qui se font progressivement. La dynamique territoriale apparaît en 2002 avec l'obligation de redynamisation territoriale. Vous voyez, tous ces champs hein, qui ont été évoqués rapidement par Frédéric, qui se mettent en place dans la loi au fil de cette période. Derrière ces dispositions légales qui visent à résoudre des problèmes identifiés, ou à les traiter, en tout cas, sinon les résoudre, à les traiter, à les aborder au moins, il y a une représentation, et une représentation dominante, qui structure à la fois la loi, mais pas seulement la loi, aussi la manière dont chacun appréhende les restructurations en France. Ces fondamentaux, c'est un, tout ça, c'est, la restructuration existe lorsqu'il y a rupture de contrat de travail. C'est ce que disait Frédéric, il y a toute une partie qui passe sous le radar, parce que ça ne passe pas par des ruptures de contrat de travail. Donc là, rupture de contrat de travail, ben, ça veut dire qu'on va construire un droit autour du licenciement pour motif économique. C'est ça qui génère, qui déclenche des dispositifs légaux d'accompagnement des restructurations. Deuxième chose, c'est l'employeur qui est responsable des restructurations. Alors, selon le point de vue, la responsabilité s'entend de différentes manières. Pour l'employeur, il est responsable parce que c'est lui le chef. C'est lui qui a la charge d'eux. Par contre, du point de vue des représentants du personnel, il est responsable parce que c'est de sa faute. En gros, je schématise à outrance, mais c'est un peu ça qui structure le truc et qui, du coup, donne lieu, dans un premier temps, au contrôle administratif de sa décision. C'est la première période dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, dans un deuxième temps, au moment où naît le plan social, dit, eh ben, c'est lui, puisque c'est sa faute, puisque c'est lui qui est responsable, c'est à lui d'établir et mettre en œuvre un plan social. Troisième chose, comme c'est lui qui est chargé d'établir et mettre en œuvre un plan social, ben, on ne peut pas lui demander de faire des choses qu'il ne peut pas faire, qu'il n'a pas les moyens de faire. Et la loi nous dit que la validité du PSE s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient. Alors, il y a évidemment des objections à chacune de ces trois représentations. La première, c'est que aujourd'hui, les restructurations, elles passent de moins en moins par des ruptures de contrat de travail pour motif économique. Alors, par des ruptures de contrat de travail d'une part, on disait, mais aussi par des ruptures de contrat de travail pour motif économique. Je vous ferai voir deux, trois graphiques après. La deuxième assertion, elle fait l'hypothèse, elle induit, elle conforte l'idée que la restructuration, c'est une décision monolithique. Restructurer, c'est une décision, il y a tout dedans. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Rachel Beaujolin, notamment, a démontré que la décision de restructuration, c'est un ensemble de décisions, une succession de décisions qui s'emboîtent les unes dans les autres, en cercle concentrique, etc., avec notamment la construction d'un consensus managérial. Enfin bref, il y a quantité de dimensions à la décision qui, du coup, ne peut pas être simplement agrégée dans le simple fait du France. Je dirais, ou de l'employeur, selon le... Et puis enfin, la question de... on ne peut pas demander à l'employeur de faire plus que ce qu'il peut, c'est tout à fait juste, dès lors que c'est lui le seul responsable, mais c'est profondément inéquitable. En gros, ça revient, c'est l'adage, on ne prête qu'aux riches, quoi, en gros. Il vaut mieux être licencié par un groupe riche que par une entreprise pauvre. C'est ce que nous dit la loi. Et c'est tout à fait juste, en vrai, dans la vraie vie. Donc voilà, il y a des inconvénients à cette vision. D'autant que ce qui se fait effectivement dans le cadre de cette vision concerne de moins en moins de gens. Vous voyez, même au niveau de la rupture de contrat de travail pour motif économique, les évolutions que vous voyez sur ce petit graphique là, ça c'est la rupture pour motif économique, et ça c'est les licenciements pour motif personnel. Les courbes se croisent en 97-98. Donc on vient d'un univers où la rupture pour motif économique était dominante, comme ça paraît logique, il y a des mutations, etc. Et on est aujourd'hui dans un univers où, les mutations, ça ne génère pratiquement pas de suppression d'emploi pour motif économique. Ça, c'est les inscriptions à Pôle emploi. Là, vous voyez, cette petite pointe qu'on voit ici, là, c'est la crise de 2008-2009. C'est l'année 2009. Autrement dit, c'est les inscriptions à Pôle emploi suite à un licenciement économique lié à la plus grave crise depuis 1929. Ça fait pas lourd. Vous avez remarqué que là, il y a un petit creux sur les licenciements pour motifs personnels à partir de 2008. C'est ça, en fait. C'est les ruptures conventionnelles. Pas loin de 400 000 en 2016. Donc, ils ont massivement empiété sur le licenciement pour motifs personnels. Oui, il y a une asymptote. Ce que vous avez là, c'est une courbe qui reprend les PSE. Alors, c'est beaucoup plus erratique. Alors, sachant que l'administration nous dit qu'on ne sait pas forcément très bien les compter, et pourtant, c'est la seule chose qu'ils sachent compter. Ça, c'est un truc qui est très remarquable sur les restructurations. Depuis 40 ans, la seule chose qui fasse effectivement l'objet d'une évaluation, c'est le nombre des PSE déclarés à l'administration. On en sait un tout petit peu plus depuis qu'il y a l'homologation ou la validation des PSE, mais c'est vraiment pas grand-chose de plus, et le ministère n'a pas communiqué dessus depuis 2015. Pour ma part, je n'ai pas d'infos sur 2016.
Il y a des gens du ministère, je crois. Si...
D'accord. Donc vous pourrez nous dire ce qu'il en est des statistiques en la matière. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y en a de moins en moins. Hein, en fait, les PSE, hein, non seulement il y a de moins en moins de licenciements pour motifs économiques, mais il y a aussi de moins en moins de plans de sauvegarde de l'emploi. L'an passé, il y en avait 730. Il y en a eu 730. Il y a une vingtaine d'années, on était allé sur 1500 à 2000 par an, quoi, en gros. Hein. Alors là, il y a une grosse pointe, vous voyez, hein, il y en a 2400 en 2009, hein, qui a été déclaré.
Avant 2013, la moyenne était à peu près de 1000 chaque année.
Oui, on a une longue période, là, vous voyez, il y a une longue période sur les années... on voit les crises, hein. Là, on a la crise de 2009, et là, on a la crise 2002-2003. Il y a toujours un petit décalage par rapport à la crise économique elle-même, hein, justement parce qu'on a d'autres leviers pour ajuster à court terme. Hein. Et là, il y avait un gros creux, période en 2000. Je ne sais pas pourquoi, il y en a moins de 1000 en 2000. Mais c'est vraiment très atypique dans la série des 10 années. Hein. Je n'ai pas retrouvé avant 96. Mais je sais, si vous voulez, pour vous dire, pour le faire simplement, dans notre portefeuille d'activité Syndex, on travaillait sur 150 à 200 restructurations par an il y a 20 ans. Et aujourd'hui, c'est moins de 100. Et cette année, ce ne sera probablement pas plus de 60. Alors, ça peut être des effets commerciaux aussi, hein, bien sûr. Un petit mot sur les portefeuilles avant de passer à un cas concret. Qu'est-ce qu'on observe? Alors, c'est à partir de notre portefeuille. Autrement dit, c'est quelque chose qui est biaisé. Ça ne peut pas être tenu pour représentatif de données statistiques nationales. Hein, on fait appel à un expert uniquement quand il y a une présence syndicale. Donc, il y a tout un pan qu'on ne voit pas. Il y a un deuxième pan qu'on voit très peu, qui est les situations de redressement judiciaire. 40% à peu près des PSE sont dans des entreprises en redressement judiciaire. Hein, et là, on en fait quelques-uns par an, si vous voulez, mais c'est très peu. Donc, c'est des cas très particuliers. Ce qu'on observe chez nous, hein, sur ces cas dont je vous parle, c'est que malgré tout, les secteurs industriels restent prépondérants dans le nombre de missions. Métallurgie, chimie, énergie, bâtiment, etc. C'est quand même des secteurs qui restructurent plus via des PSE, hein, pas en vrai, hein, mais via des PSE, que les services, notamment. Mais ce n'est pas tout à fait la même nature d'opération qu'il y a 20 ou 30 ans. Hein, désormais, on est beaucoup plus sur des choses qui portent sur des réaffectations d'activités, avec des déplacements internationaux, éventuellement d'ailleurs. Hein. On parle moins de délocalisation, mais ça existe encore, via des réaffectations notamment, ou des abaissements, des opérations d'abaissement du point mort. Hein, c'est-à-dire une paire de mains mortes. Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails. Hein. Dans notre portefeuille encore, il y a une surreprésentation des groupes internationaux, et notamment des groupes internationaux à capitaux étrangers, hein, contrôlés à l'étranger. On pourra rentrer dans le détail, si vous voulez, plus tard. Il y a également une modification assez forte des bénéficiaires des PSE, entre guillemets, bénéficiaires. Hein, donc des gens qui rentrent là-dedans, ce n'est plus tout à fait les mêmes fonctions, et ce n'est plus non plus les mêmes CSP. Il y a moins d'ouvriers, en clair, hein, si vous voulez, et plus de techniciens et de cadres. Les revendications changent également. Ce qu'on a vu émerger depuis la crise, c'est massivement une revendication au volontariat. Désormais, tous les plans de licenciement sont précédés d'une période de volontariat. Et il y a une revendication indemnitaire de plus en plus forte. Ce que nous disait Bernard tout à l'heure. Il y a un rôle actif de l'administration du travail dans la nouvelle configuration posée en 2013 par la loi de sécurisation de l'emploi. Effectivement, ils mouillent la chemise, ils font des choses, hein. Ils s'engagent effectivement dans la négociation. Et dans notre portefeuille, plus de 80% des PSE s'achèvent par un accord majoritaire. Ce qui veut dire que désormais, les restructurations, dans le cadre de PSE, quand il y a des syndicats, ça aboutit à un accord. On va voir un cas concret maintenant.
Oui, alors plusieurs cas concrets, effectivement. L'idée, c'était de... J'ai repris un peu les PSE sur lesquels j'étais intervenue et d'autres collègues étaient intervenus. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a un, il y a des cas de figure où c'était des PSE mis en place après la reprise et le rachat par un groupe. Donc, il y a un exemple dans la presse racheté par un opérateur de télécom. Un autre exemple dans... Alors, c'est un secteur un peu très peu connu de location de télévision dans les hôtels ou dans les hôpitaux qui a été repris par un groupe suédois. Et d'autres cas aussi où il y a des PSE qui sont pris dans la presse mais qui ne sont pas liés à une reprise par un actionnaire. Juste au bout d'un moment, il y a un PSE qui est décidé. ou aussi un PSE dans une agence de voyage sur Internet, où là, pour le coup, c'était un PSE qui a été décidé par le groupe en tant que tel, et qui d'ailleurs a été cassé par... après, enfin, qui a donné lieu à des jugements de prud'homme avec surindemnité, parce que le motif économique était jugé comme pas valable. Et enfin, un groupe, la multinationale, éditeur de logiciels. Donc il y a à peu près tous les cas de figure, enfin voilà, plusieurs cas de figure très différents. Il y a plusieurs constats que moi j'ai pu faire, enfin vraiment, alors c'est du coup, c'est du terrain, c'est vraiment pas statistique ni rien. Mais en tout état de cause, il y a sur le tertiaire en tout cas, alors je ne suis pas sur l'industriel, mais sur le tertiaire, il n'y a absolument aucune anticipation de ce qui peut se passer. On a même eu des cas de figure où les directions, lors du rachat de l'entreprise, disaient noir sur blanc dans le document transmis au comité d'entreprise, il n'y aura pas de suppression de poste. Et 3 mois plus tard, il y avait un PSE qui sortait. Donc on se doute bien que c'était prévu, mais il n'y a vraiment aucune volonté d'anticiper quoi que ce soit vis-à-vis des IRP, des institutions représentatives du personnel, pour qu'il n'y ait pas de travail en amont. Du coup, dans ce cadre-là, tout ce qui est accord gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les fameux accords GPEC, c'est quelque chose aussi qui a été impulsé donc par la loi, négociation obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés au moins tous les 3 ans, mais c'est des accords qui sont pas très structurants, qui permettent pas d'anticiper en général du tout ces transformations. Peut-être aussi parce que c'est pas évident pour des organisations syndicales d'assumer de signer un accord qui va dire qu'il y a des postes supprimés dans 2 ans. Enfin, c'est compliqué. Moi, j'ai pu voir un exemple d'accord de GPEC dans l'édition de logiciels, justement, qui déterminait un certain nombre de postes à risque. En disant, ben voilà, tous ces postes-là sont à risque. Et la conclusion, c'était, eh ben, c'est aux salariés de se débrouiller au sein de l'entreprise pour trouver des passerelles, pour aller voir leur manager RH, etc. Il y avait, voilà, c'était un peu, bon, ben maintenant, on sait que ça risque, vous débrouillez. Mais il n'y aura pas de suppression de poste, vous inquiétez pas dans les 3 ans. Un côté un peu schizophrène de la démarche, mais c'est le seul, c'est un des rares accords où on a vu qu'il y avait quelque chose de mis sur les emplois à risque. Donc pas d'anticipation. Un changement effectivement avec la question des accords signés par les organisations syndicales, les accords majoritaires avec le contenu des mesures de reclassement, où là on a quand même, alors en tout cas dans les cas de figure qu'on a vu notamment. Celui de la presse, suite à rachat par l'opérateur télécom, où les organisations syndicales sont assez fortes, expérimentées, arrivent bien à dialoguer. Là, il y a vraiment des vrais enrichissements des mesures de reclassement. Il y a une vraie négociation. Et d'ailleurs, c'est vraiment un moment où on se dit, mais comment ça se fait que sur d'autres sujets, il n'y a pas d'aussi bonnes négociations? Parce que c'est un sujet assez critique. Et du coup, pour le coup, l'employeur aussi acceptait vraiment la négociation. Donc tout le monde ne s'est pas mis d'accord sur tout, mais il y a eu des vraies avancées. Y compris sur des réductions de suppression de postes. L'objectif, c'était 120 suppressions de postes, ils sont passés à 90 sur à peu près 600 salariés au total. Donc il y a eu des postes sauvés également. Donc après, c'est un PSE, hein, donc il y a eu des suppressions de postes. Tout l'aspect dramatique de la chose n'est pas du tout évacué. Mais il y a eu des moments où il y a eu vraiment. Enfin, c'est des lieux où il y a des vraies négociations, où l'intersyndicale est plus facile aussi. Les organisations syndicales se mettent beaucoup plus en dialogue entre elles, enfin, tout ce qu'on a vu à chaque fois d'ailleurs. Moi, de mes PSE que j'ai vus, il y avait plus de dialogue intersyndical qu'il pouvait d'avoir sur d'autres sujets, vu l'enjeu. Et la directe, effectivement, l'administration du travail, avec son rôle d'homologation de l'accord, a un vrai levier, notamment sur un certain nombre de choses obligatoires qu'elle regarde, notamment les catégories professionnelles pour éviter. Catégories professionnelles, c'est important, c'est la catégorie où on considère qu'un emploi est interchangeable, enfin, que 3 personnes ou 4 personnes. Qu'il soit comptable, et c'est la même fonction. Et donc, du coup, si on supprimait 2 comptables sur 4, on prend un critère d'ordre, un certain nombre de points en fonction de l'âge, l'expérience, les charges de famille, etc. Et donc, les salariés considérés les plus fragiles ne sont pas licenciés, c'est le plus jeune qui part. Donc, cette catégorie de l'emploi, elle est très importante parce que pour éviter de cibler la personne qui doit partir. D'ailleurs, il y a un patron, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit « En France, c'est compliqué, on ne peut pas choisir qui on licencie dans les plans sociaux. » Voilà. Bon.
Donc là, il y avait du volontariat aussi.
Oui, voilà. En plus, il y avait la phase de volontariat au début. Donc effectivement, les catégories professionnelles, c'est quelque chose que l'administration regarde et qui est un levier pour négocier des meilleures dispositions, parce que parfois l'organisation syndicale va être un peu plus coulante sur la catégorie parce qu'elle va obtenir d'autres choses en échange. Donc la directe et l'administration de travail a un poids qu'elle n'avait pas avant 2013 en fait. Entre 86 et 2013, l'administration de travail était plus absente. Dans ce que j'ai pu voir également, c'est que alors c'est des PSE qui étaient quand même globalement relativement bien dotés. Effectivement aussi, ce qui est compliqué, c'est qu'on prête qu'aux riches, comme le disait Dominique, c'est qu'en plus sur des salariés dont bah, les salaires sont plus élevés, les indemnités qui sont fonction des rémunérations sont encore plus élevées. Donc en plus, on a un phénomène de l'entreprise qui a des moyens qui, en plus, quand c'est des cadres qui sont licenciés avec des salaires importants, l'indemnité est proportionnelle à leur salaire. Donc il n'y a pas d'effet dégressif ni progressif dans ces histoires-là. Et c'est à noter aussi parce que du coup, il y a quand même aussi un appel d'air là-dessus. C'est les PSE que j'ai pu voir, en général, à quelques exceptions près, ont quand même cassé les entreprises. Enfin, au-delà, bien sûr, au-delà du fait que certaines avaient des difficultés, le secteur de la presse, je ne vous fais pas un schéma, le chiffre d'affaires baisse, la publicité, les revenus publicitaires. Il y a quand même des difficultés dans les secteurs que j'ai pu voir. Mais c'est des choses qui cassent les entreprises. Parce qu'en fait, et y compris dans les entreprises qui vont bien, parce que dans l'édition logicielle, où c'est des délocalisations, ça va bien. Enfin, il n'y a pas de. C'est des entreprises qui sont extrêmement riches. Hein. Donc les moyens sont mis, les salariés vont pas derrière au prud'homme pour contester le motif économique parce que voilà, ils ont retrouvé du travail après, ils sont passés à autre chose. Mais c'est des entreprises aussi qui vont bien, donc dans le coup de figure, il y a bien et pas bien dans la situation. Mais quelle que soit la situation, ça casse vraiment la dynamique. Pour les entreprises qui vont pas trop mal, les salariés qui n'ont pas été dans le premier plan, ils ont envie d'être dans le deuxième ou être dans le troisième. C'est vraiment ils sont dégoûtés de pas y être. Dégoûté de pas avoir l'indemnité parce que c'est un bassin d'emploi qui peut être dynamique. Et du coup, au côté collectif de l'entreprise, c'est vraiment problématique. Et les organisations syndicales se battent pour sauver des emplois, mais dans certaines entreprises, elles ne se battent plus là-dessus. Elles vont se battre sur toutes les régimes indemnitaires, le supralégal, au-delà des indemnités légales. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Et y compris dans les entreprises qui ne vont pas bien, quand il y a un volontariat où il y a une phase de volontariat, elle est généralement assez bien pourvue, y compris par exemple dans la presse, on se dit, bon, quand on a un métier dans la presse, on ne va pas forcément se dire qu'on va trouver un autre titre ailleurs qui va nous embaucher parce que tout le monde est en train de réduire un peu sa masse salariale. Et bien même dans ces secteurs-là, il y a une crainte que ça soit pire après, donc on veut tout de suite en être dès le début. Et ça, c'est assez frappant. Alors après, on a un bassin d'emploi, région parisienne, où il y a quand même des moyens de retrouver de l'emploi, mais même dans les secteurs en difficulté, y compris... On l'a vu aussi, alors pour le coup, c'était un titre de la presse quotidienne régionale dans une des régions les plus difficiles d'ailleurs, où il y avait eu plus de volontaires au départ que de gens qui voulaient rester parce qu'il y avait le côté, on ne sait pas, enfin voilà, on ne croit pas à la suite par ailleurs. Et c'est vrai que aussi une des problématiques des PSE qu'on a pu voir, c'est la suite, qu'est-ce que propose l'entrepreneur, enfin l'actionnaire aux salariés qui restent, donc les fameux business plans, etc. C'est souvent, alors on s'en doute, mais ça manque de sincérité, ça manque de travail, et du coup, les employés n'y croient pas, ceux qui restent n'y croient pas après. Ils se disent, bon, ça vaut pas grand chose, quoi. Et pour le coup, ça se vérifie parfois. Alors après, le monde économique est ce qu'il est, on peut pas prévoir ce qui se passe dans 3 ans, parce que notamment, je connais une autre entreprise de presse qui a fait une croissance de ses abonnés et ses diffusions papier suite à un événement particulier. Et du coup, ça va mieux après le PSE, mais c'était pas forcément prévisible. Donc il y a quand même des cas positifs. Mais il y a un côté, le fait que le PSE casse un peu la dynamique, c'est aussi on ne croit pas aux prévisions du fait que le PSE va nous permettre de sortir et de rebondir et de mieux investir, etc. C'est généralement pas ce qui se passe. Sans parler de la surcharge de travail, bien sûr, pour ceux qui restent. Parce que ça, c'est quelque chose dans le tertiaire, surtout sur des cadres au forfait, etc. Il n'y a pas de mesure de la charge de travail du tout. Donc du coup, il y a un côté très... les gens se retrouvent avec plus de travail parce que les personnes sont parties et ce n'est pas mesuré. Il n'y a pas de... C'est en heures sup non payées. Enfin voilà, ça ne se mesure pas là-dessus. Et pour les personnes qui sont parties, on a vu sur les reclassements internes. Alors la filiale de vente de location de matériel électronique, il y a eu des reconversions de techniciens en commerciaux, quelques-uns, et beaucoup de techniciens ont été repris par des sous-traitants, donc à salaire moins bon, chez des sous-traitants pour intervenir avant, comme quand ils étaient salariés. Ça, il y en a eu un certain nombre qui se sont retrouvés comme ça. Et donc de l'externalisation, y compris dans le secteur de la presse aussi. Pour certains, pas des journalistes, mais marketing, etc., ont créé leur petite boîte et sont devenus clients, fournisseurs. Et il y a ça aussi. Et aussi, une des difficultés pour finir, c'est aussi tous les départs de personnes qui ne sont pas loin de la retraite et qui, du coup, sont bien contents. Effectivement, c'est quand même... Ils ont des indemnités, ça permet d'attendre la retraite et c'est plutôt bénéficiaire, mais du coup, ils sont partis. Il y a une perte d'expérience, de capitalisation qui ne s'est pas du tout faite. Enfin, les gens sont partis et généralement, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de personnes dans ces cas-là qui partent dans ces conditions, en disant « je vais peut-être monter un petit projet », etc. Et qui, du coup, une perte très importante d'expérience dans ces conditions.
Merci beaucoup. Merci.